fois à propos des reliques. Bien sûr, il y a énormément de sujets concernant les reliques et le Bas-Limousin. Ce qui m'intéresse, c'est, et que j'ai essayé de traiter, donc, c'est le voyage des reliques. C'est-à-dire que les reliques ont une façon particulière de se comporter. Lorsque la personne qui concerne les reliques est vivante, naturellement, elle bouge, elle fait des voyages. Mais lorsqu'elle est morte, et lorsqu'elle devient une relique, donc, eh bien, elle fait des voyages aussi. Et ces voyages-là m'intéressent. Et c'est donc ça que je vais essayer un petit peu de vous décrire. Alors, le premier point qui concerne les reliques, c'est leur origine. C'est vers le 4e siècle à peu près que l'Église catholique a commencé à vouloir que des reliques soient placées dans les autels des églises et donc a, si on peut dire, lancé ce qu'on pourrait appeler la vogue des reliques. Bien entendu, il s'agit soit de corps de saints, de corps de saints, de personnages qui ont été des ermites ou des évêques. Ça peut être aussi des objets qui ont touché, simplement. Ça peut être des objets qui auront appartenu. Enfin, c'est toute une gamme de choses possibles. D'où viennent-elles? Alors ça, c'est le premier point. D'où viennent-elles ces reliques? Elles viennent, bien entendu, pour commencer, de Jérusalem. C'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit en somme de la vie du Christ, de ses disciples et ses apôtres, et qu'on peut avoir à ce sujet-là un certain nombre de reliques. Alors les plus célèbres, c'est évidemment les reliques du type, on va dire, objet de la passion, la croix, etc. Donc des reliques venant de Jérusalem. Ensuite viennent les reliques qui viennent de Rome. Ensuite viendront des reliques qui viennent d'endroits variés, nous verrons ça tout à l'heure. Et enfin, et pour finir, des reliques locales. Alors dans une deuxième partie, je vous parlerai de leur histoire, ces reliques, c'est-à-dire le fait qu'il est presque obligatoire de connaître un peu l'histoire du saint ou de la personne dont on a des reliques pour pouvoir les vénérer. Et bien sûr aussi, cette histoire, elle est parfois difficile à faire. Dans une troisième partie, alors nous verrons précisément ces voyages à travers le Bas-Limousin. Il se trouve que le Bas-Limousin est une région particulièrement riche en reliques. Alors, on a prétendu que c'est parce que les gens du Limousin, que ce soit d'ailleurs le Haut ou le Bas-Limousin, étaient particulièrement superstitieux et qu'ils avaient besoin, vous voyez, de saints ou de personnages comme ça à vénérer au lieu de s'occuper du Christ et de ses apôtres. Mais en fait, c'est probablement plus compliqué que ça. Donc les Limousins sont quand même ce qu'on peut appeler une terre d'accueil pour ces reliques, et nous verrons donc les différents voyages qu'elles ont pu faire à travers le Bas-Limousin. C'est intéressant dans la mesure où ça nous montre quelles étaient les routes du Haut Moyen-Âge. Parce que si nous vont d'un endroit à l'autre, c'est quand même qu'il y avait une route, il y avait quelque chose pour pouvoir y aller. Voilà donc, et nous terminerons donc sur une énigme qui est celle de Saint-Santin, l'église Saint-Santin, à Malmont. Oui. Alors, commençons donc par l'origine de ces reliques. Je viens de vous dire, les plus prestigieuses viennent bien entendu de Jérusalem. Ce sont les instruments de la Passion, alors en particulier, bien sûr, la croix du Christ, sa couronne d'épines, les objets qui ont servi à le martyriser. Ça, c'est un premier groupe de reliques. Ensuite viennent les corps des apôtres, lorsqu'on a pu les retrouver, et les corps des disciples du Christ. Ensuite aussi, toujours de Jérusalem, et chaque fois qu'il y avait des pèlerins, ou ensuite plus tard des croisés qui sont allés à Jérusalem, et bien des objets qu'ils ont rapportés, et qui peuvent être considérés un petit peu comme des souvenirs de Jérusalem. Ça peut être de la poussière de l'église, d'une église qu'ils ont ramassée, ça peut être une pierre dont ils ont enlevé des morceaux et qui était la pierre sur laquelle Saint-Étienne a été martyrisé. Bref, voilà, des petits objets qui peuvent servir de reliques. Mais il se trouve qu'une grande partie des reliques sont parties à Constantinople, à l'époque où Jérusalem commençait à être menacée par divers peuples, Vous savez que Jérusalem a été quand même, après les Romains, assez troublée. Et donc, beaucoup de choses sont parties à Constantinople, où était l'empereur. Et donc, à Constantinople, on retrouve, pour commencer, la vraie croix. Et cette vraie croix, elle est aux mains de l'impératrice Hélène, qui la donne à son fils Constantin. C'est là-bas aussi qu'on trouve la couronne d'épines du Christ. Et cette couronne d'épines, elle est achetée par Saint Louis, qui va la ramener à Paris, qui va construire la Sainte-Chapelle en l'honneur de cette couronne d'épines. Alors actuellement, elle est à Notre-Dame de Paris, cette couronne d'épines. Et surtout, c'est une couronne de roseaux. Mais il distribue à beaucoup d'abbayes, pas mal d'endroits, les épines de la couronne. Donc il y a beaucoup d'épines de la couronne dans des endroits très, très variés. Et puis à un certain moment, on a commencé à dire qu'on pouvait utiliser aussi des épines de ces petits arbres qui poussaient à Jérusalem, vers la montée, vers le Golgotha. Il y a donc là des petits arbustes épineux, et ces petits arbustes épineux, on en prenait les épines, on les faisait toucher la vraie couronne d'épines, la sainte couronne, et ça devenait aussi des épines, elles aussi sacrées. Vous voyez, ce qui fait qu'en total, je crois qu'il y en a 700 épines dans les différentes églises de l'Europe. Quoi. Ça, c'est Constantinople. Et puis à Constantinople, les croisés, lors de la croisade du XIIIe siècle, de 1200, ont pillé Constantinople au passage, ce qui n'est pas très bien, et ils ont là aussi récupéré pas mal de reliques. Ensuite, alors, il y a les reliques de Rome. Rome, c'est autre chose. Rome, c'est la ville de Saint-Pierre et de Saint-Paul. En principe, ils ont été tous les deux martyrisés à Rome. Et après eux, donc, on peut considérer que c'est la première église européenne. Il se trouve que les Romains incinéraient les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver de corps de Romains. C'est pas possible, de Romains païens. En revanche, les incinérations étaient mal vu par les juifs et par les chrétiens. Donc lorsqu'on trouve des corps à Rome, et datant de ces périodes très anciennes, on considère que c'est forcément des corps soit de juifs, soit de chrétiens. Et c'est le cas dans les catacombes. Donc toutes ces séries de tunnels qui sont dans le tuf sous Rome, et qui possèdent des corps qui sont datables, si vous voulez, du 2e, du 1er siècle, jusqu'au 6e siècle. Et donc, il y a eu une véritable utilisation, on peut dire, de ces corps des catacombes, qui étaient distribués soit par les papes, soit aussi par des marchands plus ou moins scrupuleux, qui les récupéraient, et qui donc les, on peut dire, les vendaient, parce qu'on a beaucoup vendu de reliques, sous le nom de martyr chrétien. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, on a commencé à dire « Ouais, mais ça en fait beaucoup. Est-ce qu'ils étaient tous martyrs? Est-ce que ce n'était pas aussi des gens quoi, qui avaient vécu et qui étaient morts normalement ?» Alors on a plus ou moins expliqué qu'à côté de ces corps, il y avait des vases, que dans ces vases, il y avait un produit qui était le sang des martyrs. Et donc, du moment que c'était un corps à côté d'un vase, c'était un martyr. Mais enfin, ça, c'est des idées du XVIIIe siècle. Au XIXe, ils se sont mis à faire des analyses. Il paraît que ce n'était pas du sang, que c'était autre chose qui avait dans les... Bon, alors bref. Mais disons, Rome, c'est vraiment le lieu d'origine de tous les corps de martyrs, du 1er, du 2e siècle, vous voyez, 1er, 2e, 3e siècle, on va dire, et qui sont donc ensuite distribués à travers toute l'Europe chrétienne. Ça, c'est Rome. Alors maintenant, ça peut venir d'ailleurs, les reliques. Il y a par exemple toutes ces reliques qui ont été pillées dans des églises qui avaient été elles-mêmes détruites par les Normands ou par les Sarrasins, donc à des époques diverses, et qu'on est venu récupérer pieusement pour les mettre dans des endroits un petit peu moins dangereux. Alors ça, vous allez voir, c'est le cas du Limousin. Le Limousin était une région vraiment isolée, complètement à l'écart, évidemment, des attaques de Sarrasins, complètement à l'écart des atteintes de Normand, et beaucoup de reliques sont venues s'y installer. Et puis pour finir, vous avez beaucoup de reliques qui sont tout simplement des reliques locales. Alors ici, ben, on peut prendre l'exemple de Saint-Viance. Viance, c'est un monsieur du coin qui semble être un ermite, qui est mort quasiment sur place, pas très loin, et dont le corps a été enterré sur place. Et ensuite, on a construit une église sur ce corps. Pareil pour Saint-Martin l'Espagnol, après. Il vient sans doute d'Espagne, ce qu'il appelle Martin l'Espagnol. Mais enfin, bon, c'est quand même ce qu'on peut appeler un saint presque local. Vous avez Saint-Libéral, pour Avril, qui est un évêque d'Embrun, mais originaire quand même de Brive, qui revient à Brive et puis pas reconnu par sa famille, qui y meurt, et soudain on reconnaît que c'est d'abord un ancien évêque, qui était originaire de Brive, et on lui fait son église, vous voyez. Ça, c'est le type de la relique locale. Voilà donc pour cette origine des reliques. Alors ici, on vous donne l'exemple de la collégiale de Saint-Martin de Brive. Vous avez là ce qu'on peut appeler des reliques qui sont contenues dans un chef. Alors un chef, c'est donc en principe une relique qui contient la tête, le crâne du saint. Mais la plupart du temps, elles ne contiennent plus. Il a été soit mis à l'abri, soit au contraire pillé, volé. Et donc ici, vous avez deux têtes de Saint-Martin, qui datent probablement du XVIIe siècle, quelque chose comme ça, et qui sont donc des têtes ayant contenu la tête de Saint-Martin. Alors, un exemple quand même plus extraordinaire. Alors là, nous sommes à l'époque des reliques de Jérusalem, donc vraiment les reliques les plus prestigieuses, et c'est le cas de la relique qui s'appelle le calice de la Seine. Alors des calices de la Seine, il y en a pas mal. Il y en a surtout en Espagne. Les Espagnols sont très très forts pour avoir beaucoup de reliques, mais d'autre part, ils les ont conservées. Alors qu'en France, il y a eu la guerre de Cent Ans, il y a eu ensuite les guerres de religion, les protestants ont détruit énormément de reliques, et puis surtout, le pire, ça a été la Révolution, où on a, alors à ce moment-là, pratiquement détruit et fondu la plupart des châsses. Alors les révolutionnaires n'ont pas toujours détruit les reliques, ça leur était égal, c'était pas leur problème. Enfin, il y en a beaucoup quand même qui ont disparu. Le calice de la Seine. Nous sommes en 1211, donc nous sommes au XIIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, au temps de Philippe Auguste, et les seigneurs de Malemort veulent prouver que ce sont eux qui ont fondé Malemort. Alors, pour le prouver, ils expliquent qu'ils sont des très très anciens seigneurs, d'abord qu'ils étaient déjà seigneurs au temps des Romains, et qu'un d'entre eux, qui s'appelait Forus, était le cousin de l'impératrice Hélène. Et donc, puisqu'il était le cousin de l'impératrice Hélène, elle lui a donné le calice de la Seine. Elle n'a pas donné la Sainte Croix, mais elle m'a quand même donné le calice de la Seine. Et à partir de ce moment-là, disent les seigneurs de Malemort, nous l'avons déposé dans le tombeau de Saint-Martin. Alors en fait, Saint-Martin est plus tardif, mais c'est pas grave. Nous l'avons donc déposé dans le tombeau de Saint-Martin. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des miracles en quantité et tout s'est très bien passé. Effectivement, l'église de Saint-Martin espagnol possédait un calice qu'ils appelaient le calice de la Seine. Alors il disparaît, ce calice, pendant la guerre de Cent Ans. Et même après la guerre de Cent Ans, en 1469, lorsque Louis XI vient visiter, enfin passer par Brive, et qu'on connaît son amour des reliques, Louis XI, il avait une collection de petites médailles sur son chapeau, et d'autre part, il s'arrêtait dans tous les endroits où il y avait des reliques. Vous savez qu'il se promenait sur une mule. Autrement dit, il allait cheminer tranquille. Hein. Ce n'était pas du tout les grandes cavalcades. Arrivé à Brive, on va donc lui présenter le chef de Saint-Martin. Alors, peut-être pas celui que vous avez vu, mais certainement une châsse en vermeil magnifique qui était la tête de Saint-Martin. Et on lui présente la vraie croix parce qu'il avait à Brive des reliques de la Vraie Croix, et puis une sainte Verriera, complètement inconnue. Je ne sais pas qui est cette sainte Verrière, mais bon, il a adoré et vénéré ses reliques. Le calice s'est retrouvé en 1477. C'était à l'occasion d'un dépoussiérage. On était en train de nettoyer la chasse de Saint-Martin, alors pas le chef, mais une grande chasse, et on aperçoit dedans le calice de la serre. Il est donc retrouvé, et on peut recommencer à l'honorer, le vénérer, et à même le sortir en procession. On va avoir sa première description en 1530. Nous sommes pas longtemps avant les guerres de religion, et la personne qui va nous le décrire est un médecin de Tulle. Alors, du fait qu'il est de Tulle, déjà, forcément, il va trouver que c'est moins bien que ce qu'est à Tulle. Ensuite, c'est un médecin. Bon, il a quand même une certaine... Il est assez scientifique, il a un esprit scientifique. Alors, voilà comment M. Symphorien Champier décrit cette relique. C'est une sorte de calice en pierre cendreuse, c'est-à-dire en brasier, en brasier du coin, ébréché. En 1634, ce calice ébréché et en pierre, fabriqué en pierre donc, est placé dans un véritable reliquaire qui est en verre, à 8 pans, très beau, et qui a été payé par Louis XIII. Ça veut dire que, vous voyez, il prend au sérieux cette relique de la Seine. En 1765, nous sommes maintenant donc au XVIIIe siècle, nouvelle description de cette relique. Cette fois-ci, c'est les gens de Limoges qui l'écrivent. Et ils nous disent, c'est une coupe d'un travail assez grossier, un peu mutilée, en pierre de sable grise. Elle disparaît, cette relique, à la Révolution. Nous ne saurons donc pas ce qu'elle est devenue. Nous ne saurons donc pas d'où elle est venue, sauf que quand même, elle est fabriquée en pierre du pays, c'est-à-dire en Brésil. C'est pas la pierre de Jérusalem, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais d'autre part, par rapport aux autres reliques de la, enfin aux autres calices de la Seine, c'est, si vous voulez, plus modeste. La plupart des calices sont faits dans des émeraudes taillées, une seule pièce. On se demande comment le Christ, le jour de la Seine, a bien pu se procurer une émeraude, alors qu'à la rigueur, une coupe en bois, une coupe en terre, une coupe en poterie, ça paraît très plus logique. Enfin, bon. Un seul personnage a essayé quand même de lui trouver une origine plus logique que l'histoire de l'impératrice Hélène. C'est un carme, c'est-à-dire un religieux, qui s'appelait Bonaventure de Saint-Amable, qui vivait au début du XVIIIe siècle, et qui essayait, si vous voulez, comme beaucoup de ces moines du début du XVIIIe siècle, de trouver une raison logique à la présence des choses. Au XVIIIe siècle, on commence à être logique, vous voyez. Et il va essayer de se dire, mais d'où il vient? Alors voilà ce qu'il pense. Il pense qu'il a été rapporté de Constantinople, ça, oui, puisque c'est Hélène qui l'a ramené, depuis Jérusalem jusqu'à Constantinople, par Valentinien III. Valentinien III, c'est un empereur qui était assez favorable aux chrétiens, donné à un clerc, pour ça on ne sait pas pourquoi Valentinien III l'a donné à un clerc, c'est-à-dire un simple moine, lequel moine l'a déposé à Saint-Germain de Toulouse, et il se trouve que passant par là, l'évêque de Limoges, qui s'appelait Ruris II, s'aperçoit en lisant ce qu'il écrit sur un petit décréto qui était à côté, que ça venait de Brive, enfin que c'était destiné à Brive, et donc il le rapporte à Brive. Vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais enfin, en même temps, bon, c'est une explication comme une autre. Vous direz que les autres calices de la Seine ont aussi des origines assez compliquées. Voilà donc pour ce calice. Retenez quand même que c'est une relique notable. Alors ici, nous avons à Beaulieu le retable de Saint Prime et de Saint Félicien. Là, ce sont des saints qui ont été martyrisés à Rome et qui ont une très très grosse importance à Beaulieu. C'est au moment de la fête de Saint Prime et Saint Félicien qu'a lieu la plus grande foire de Beaulieu et la plus grande fête qui s'appelle la fête des corps saints. Et ces corps saints, c'est donc Saint Prime et Saint Félicien. Je vous dirais qu'ils ont été martyrisés l'un à 80 ans, l'autre à 90 ans. C'était deux frères. Vous voyez que c'est le troisième âge. Hein. C'est pas tout à fait l'habitude. Et voilà donc la personne qui nous a rapporté. Alors cette fois-ci, on est plus dans la véritable histoire. Parce que ce personnage, Raoul, archevêque de Bourges, est un personnage historique. Il a réellement fondé l'abbaye de Beaulieu. Il l'a fondée donc dans les années 850-860, à une époque tout à fait historique, et on sait un petit peu son parcours. Il est le fils d'un autre Raoul, qui s'appelait Raoul comte de Percy, et qui vivait à Casillac, ou à Sarrazac, vous voyez, dans ce petit coin. Il s'était enterré d'ailleurs à Sarrazac. Les gens qui ont étudié le cartulaire de Beaulieu ont cru qu'il était comte de Turenne. Il n'était pas comte de Turenne, il était comte de Quercy. Mais il est probable qu'il avait des biens dans la région de Turenne. Il en avait aussi du côté de Beaulieu. Alors ces biens, il va les donner bien sûr à son fils aîné, qui s'appelle Godefred ou Geoffroy, mais à son fils cadet, qui s'appelle Raoul, il donne en 823 toute une série aussi de biens au moment où il devient moine. Et il devient moine, ce Raoul, donc futur archevêque de Bourges, il devient moine à Solignac. Solignac, c'est une des plus vieilles abbayes du Limousin. Ensuite, il semble avoir quitté la ville, il a fait de la politique, il a quitté la ville moine, mais il est resté clerc. Il fait de la politique, il soutient les rois d'Aquitaine, Pépin I et Pépin II, qui étaient hostiles au roi de France, Charles le Chauve. Il les soutient, c'est une mauvaise solution, puisque ça se termine mal pour eux. Et il change de camp. Et il soutient ensuite Charles le Chauve. On dit, il change de camp. Il avait quand même été fait archevêque de Bourges par ce Pépin II, c'est-à-dire par ce roi d'Aquitaine, et non pas par le roi de France. Mais il faut croire qu'il était très habile, parce qu'il a réussi donc à s'en tirer. Il fonde une abbaye du côté de Bourges. Et comme je vous le disais, en 855 ou 860, il fonde l'abbaye de Beaulieu dans un petit village qui s'appelait Véminus, un petit village de pêcheurs à côté de Brixac, à côté d'un autre endroit un peu plus important sur la Dordogne. Le pape le nomme primat d'Aquitaine, c'est-à-dire premier évêque ou en tout cas archevêque d'Aquitaine, au-dessus de l'archevêque de Bordeaux et au-dessus de l'archevêque de Toulouse. Il est donc primat, le premier, celui qui gouverne les autres, et il lui donne ce qu'on appelle le pallium, c'est-à-dire une sorte d'écharpe, qui est le signe de cette primauté. Donc Raoul va à Rome, on en est sûr, et à Rome, eh bien sûr, il rapporte des reliques. Il va rapporter des reliques pour son abbaye qui vient de fonder, l'abbaye de Beaulieu. Alors il ramène donc Prime et Félicien, je crois qu'il m'aimait un peu les gens honorables et assez vieux. Il ramène Félicité. Alors Félicité, c'est une des très rares saintes qui soit mère de famille. Il faut croire que le fait d'être mère de famille, ça ne pousse pas à la sainteté, vous voyez. Et d'autre part, elle a quand même 7 fils. Ça veut dire qu'elle est particulièrement sainte. On ne l'a pas d'ailleurs, bon, son martyr n'a pas été aussi terrible que celui de Prime et Félicien. On s'est contenté, c'est plutôt, si vous voulez, un supplice psychologique, de tuer ses 7 fils devant elle. Bon, enfin, c'est psychologique, ça. Bref, elle est ramenée. Donc, vous voyez, Raoul, il est plutôt favorable à des saints assez âgés, disons assez mûrs. C'est pas les jeunes vierges que nous allons voir tout à l'heure. Et naturellement, Prime et Félicien et Félicité vont apporter à Beaulieu une énorme publicité, beaucoup de pèlerinages, beaucoup aussi de jours de marché et de jours de foire où il va y avoir beaucoup de gens qui viennent. Bref, c'est le départ de la grande prospérité de Beaulieu. Vous voyez qu'une relique, c'est pas rien. Une relique, c'est très important au Moyen-Âge pour amener des gens quelque part. Voilà, la plus connue, c'est évidemment Rocamadour. Ensuite, nous arrivons donc à un autre exemple. Alors, l'histoire des reliques. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on connaisse la vie du personnage dont on vient d'avoir des reliques pour que ça puisse être vraiment intéressant. Alors, pas seulement sa vie, mais surtout son martyre, ce qu'on appelait sa passion. La passion, c'est le fait de supporter avec courage toute une série d'épouvantables supplices que l'on vous fait. Donc ça, c'est la passion. Ensuite, il faut connaître ce qu'on appelle sa translation. Très généralement, au moment de sa mort, ce martyr ou ce personnage très connu est enterré, mais il reste longtemps inconnu sous terre. Et donc, il se passe quelquefois 200, 300 ans avant qu'en songe, au cours d'un rêve, vous voyez, ou bien au cours d'une révélation plus directe, on apprenne qu'il a été enterré là et qu'il faut donc le déterrer. Le déterrer et le transporter dans un endroit plus digne, et cet endroit plus digne peut être sur place, c'est-à-dire que c'est une église avec une crypte et avec donc des châsses et tout un tas de choses pour le vénérer, ou bien le translater plus loin. C'est-à-dire on peut le translater carrément dans une autre province, un autre endroit. Ça, c'est la translation. Ensuite, ce qui va prouver que ce saint est véritablement un saint important, que sa translation a été utile, eh bien, c'est le nombre de miracles qu'il va faire. Parce qu'il y a des reliques qui ne produisent aucun miracle. Et ça, évidemment, c'est très embêtant. Ça veut dire soit que le saint n'est pas content, parce qu'on l'a mal célébré, ou bien qu'il n'est pas au bon endroit, et qu'il demande à être à un autre endroit, donc il faut le retranscrater, et à ce moment-là, il se décide, si vous voulez, à faire à nouveau des miracles. Au tout début du Moyen-Âge, quand un saint ne faisait pas de miracle, il était descendu de son socle, la statue était descendue de son socle, et on lui mettait dessus de la paille pour l'humilier, vous voyez, pour lui dire, tu ne fais pas de miracle, il faut te décider maintenant. Hein. Comment on dit, mais c'était quand même utile, important. Hein. Bon. Mais enfin, quand il en fait, c'est tout à fait parfait. Souvent aussi, les miracles qu'il fait ont un rapport avec son nom. Par exemple, Saint-Clair vous rend la vue. Saint-Sourd de Terrasson, il vous débouche les oreilles. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de saints comme ça qui ont des vertus précises. Ensuite, il faut avoir la vie de ce saint. Quelquefois, ce n'est pas très commode. Il a été, par exemple, ramené d'une église pillée en Gascogne. Comment savoir la vie qu'il a eue? Ce sont les moines bénédictins du XIe et du XIIe siècle qui vont se charger de faire ce qu'on appelle la vita, c'est-à-dire la vie du saint. Et évidemment, ces moines bénédictins ont une grande connaissance des saintes écritures, naturellement, mais aussi de bien d'autres livres. Ce sont eux qui sont les détenteurs du savoir, les moines bénédictins. Et en même temps, ils n'ont pas d'imagination. C'est eux, par exemple, c'est les moines de Saint-Martial de Limoges qui vont déclarer que Saint-Martial a vécu au temps du Christ, qu'il est venu évangéliser le Limousin au 1er siècle. Alors, il explique pas bien, les moines n'expliquent pas pourquoi durant deux siècles encore le Limousin est resté païen, mais enfin bon, il est du 1er siècle. Il a amené avec lui Amadour, qui était le zappé de l'Évangile, petit personnage qui était monté dans un arbre pour voir le Christ. Il amène aussi Véronique, qui est celle qui lui a scié le visage pendant qu'il montait au Golgotha. Bref, vous voyez, les moines de Saint-Martial ne manquent pas d'idées. Alors plus tard, on se décidera à admettre que Saint-Martial n'a vécu qu'au IIIe siècle, et donc il n'a réussi à évangéliser le Limousin qu'à partir de la fin du IIIe siècle, et même plutôt le début du IVe, mais enfin bon, c'était beaucoup plus tard. Donc ces écrits sont faits par les moines. Naturellement aussi, c'est en faveur de leurs propres abbayes. Ils ne vont pas faire la publicité d'une abbaye voisine. C'est ainsi, par exemple, toujours que les moines de Saint-Martial refusent absolument l'idée qu'à Saint-Jean-d'Angély, il y a la tête de Saint-Jean-Baptiste. Ils disent qu'elle n'est pas là. Je peux vous dire qu'elle est, mais elle n'est pas à Saint-Jean-d'Angély. Ils ne veulent pas que l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély prenne trop d'importance. Vous voyez. Donc, il y a une sorte de concurrence entre ces abbayes, et ce sont elles qui sont en réalité détentrices de la plupart des reliques. À côté d'elles, il y a aussi les évêchés, bien sûr, mais les évêques ne tiennent pas tellement à avoir des reliques un peu étrangères. Ils préfèrent tout simplement les reliques de leurs propres prédécesseurs, c'est-à-dire les premiers évêques. Ça paraît normal. Donc dans les villes d'évêchés, il y a plutôt des saints qui sont d'anciens évêques que des saints qui seraient venus d'un peu partout. Alors ensuite, il y a le problème de savoir dans quel ordre classer ces reliques. D'après les moines, il faut commencer par ce qu'ils appellent les reliques insignes. Insigne, ça veut dire vraiment extraordinaire. Et à ce moment-là, c'est un corps tout entier, quand on a à la fois tout le squelette d'un personnage. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est extrêmement rare. Mais... Et donc, ça serait la relique insigne. Ensuite, il y a la relique notable. Alors, une relique, elle est notable quand on a au moins la tête ou un bras, c'est-à-dire une partie du corps. Et ça, bon, le seul problème, c'est qu'il y a des têtes un peu partout, et quelquefois, plusieurs têtes du même saint, c'est un peu embêtant. Du côté des bras, c'est un petit peu moins un problème, parce qu'il y a quand même deux bras, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de bras. L'histoire la plus épouvantable, ça a été celle de Sainte-Reine d'Alise, Alice Sainte-Reine, d'ailleurs, c'est Alisia, quoi. Et c'est une sainte vierge martyre dont les bras se retrouvaient théoriquement à Nuremberg. Et à Nuremberg, au moment d'un traité de paix entre la France et l'Allemagne, les Allemands nous ont donné le bras. Lequel bras a été emmené chez des franciscains qui se trouvaient à Alise. Ils étaient très contents. Pas de chance. L'abbaye de Flavigny, qui était juste à côté, détenait le corps entier de Sainte-Alice depuis les temps immémoriaux. Alors il y a eu une discussion, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle, une discussion pour savoir les bras en question. Et un médecin trouvait victorieusement que le bras possédé par les franciscains était un bras d'une femme de 30 ans, et c'était pas possible parce que justement, Sainte Reine avait été martyrisée à 14 ans. Voilà comment, vous voyez, au XVIIIe siècle, on pouvait essayer de prouver l'origine d'une relique. Et puis, il y a les reliques qui ne posent aucun problème. C'est ce qu'on appelle les reliques de contact. C'est-à-dire simplement ce qu'on a ramené de Rome ou de Jérusalem et qui a eu le privilège de toucher le tombeau du Christ ou toucher le tombeau de Saint-Pierre, bref, quelque chose qui est plutôt un objet souvenir, voyez. Voilà pour ces différentes classifications reliques. Et nous passons alors maintenant à un autre exemple qui va être celui de saints beaucoup plus locaux. Alors ici, vous avez le martyr de Sainte-Valérie. Je viens de vous dire, Sainte-Valérie, c'est une sainte qui, d'après les moines de Saint-Martial, a vécu donc au 1er siècle. Ensuite, on l'a dit plutôt au 3e siècle, et qui était donc une disciple de Saint-Martial. Vous savez que cette sainte donc était la fille d'un grand seigneur de Limoges. Ça, c'est le thème classique. Fille d'un grand seigneur de Limoges, elle devient chrétienne, elle refuse d'épouser le comte de Limoges qui vivait à cet endroit-là, donc on lui coupe la tête, ce qui est plus simple, évidemment, et sa tête, elle la prend et elle la porte à Saint-Martial. Elle va avoir une vogue extraordinaire, hein, Sainte-Valérie. surtout dans le Haut-Limousin. Pas ici, pas dans le Bas-Limousin, mais à Limoges et en Creuse, elle a un succès extraordinaire. Voilà les saintes en question. Alors, c'est ce qu'on appelle des jeunes vierges, martyrisées alors qu'elles n'ont que 13, 14, 15 ans, vous voyez, 18 au maximum, qui appartiennent toujours à des familles très nobles, qui sont des familles païennes la plupart du temps. Elles se font convertir soit par un ermite, soit par leur nourrice, et elles refusent d'épouser un très grand seigneur, encore plus grand que leur famille, qui veut absolument les épouser. La conséquence, c'est qu'on va les martyriser. Alors là, je peux mettre ça, si vous voulez, au catalogue des gens qui ont été vraiment très martyrisés. Après, chose curieuse, vous voyez, c'est les saintes pour lesquelles on décrit, les saintes, pour lesquelles on décrit le plus minutieusement les supplices qu'elles ont subis. On dirait que ça fait presque plaisir, tellement c'est bien décrit. C'est effrayant. Alors, les premières qu'on peut repérer, c'est Marguerite d'Antioche. Marguerite d'Antioche, donc, qui est morte, vous voyez, dans des années très anciennes, et qui est morte à la suite de supplices épouvantables, qui l'ont d'ailleurs fait rencontrer en cours de route un dragon. Ensuite, vous avez l'exemple de Sainte Catherine d'Alexandrie, qui était une femme cultivée, instruite, et qui elle aussi a subi des supplices extraordinaires. Sainte Barbe de Nicomédie, elle aussi, une dame qui a subi un supplice avec beaucoup de feu, en particulier, ce qui fait qu'elle est la patronne des artificiers, des artilleurs et des gens comme ça. Et puis il y a Agnès de Rome, qui elle aussi a connu des supplices considérables. Alors à partir de ces quatre saintes, on va donc avoir toute une série de saintes un petit peu du même style, qui sont aussi des vierges martyres. Alors, je vous ai parlé de Sainte Reine d'Alice, de Sainte Valérie de Limoges, mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus locales et qui vont nous intéresser beaucoup plus. Alors, la première, c'est Sainte Foy d'Agen. Sainte Foy d'Agen, donc, est morte à Agen, vers 303, au cours d'un supplice épouvantable. Elle a été longtemps ignorée, puisque c'est seulement en 868, au moment des invasions normandes, que les moines de Conques-en-Rouergue, décident de venir la chercher et l'emmènent, si on peut dire, à la suite d'un vol. C'est-à-dire que le moine de Conques, qui est venu à Agen, est resté 10 ans à Agen pour endormir les soupçons. Il s'est fait nommer sacristain de l'église, comme ça il pouvait y avoir accès plus facilement, et de nuit, il est venu dans la crypte d'Agen, où se trouvait le corps de Sainte-Foy. Comme il n'a pas réussi à soulever le couvercle de sa tombe, il a fait un trou sur le côté, vous voyez le travail, vous imaginez, parce que c'est des tombeaux en pierre, hein, très gros tombeaux en pierre, et il a enfin embarqué le corps de Sainte-Foy, en emportant également celui de Saint-Vincent de Pompéjacques, qui était un obscur au sein local, mais enfin, ça en faisait deux. Et il ramène donc Saint-Foy et Saint-Vincent à Conques. Et ça va être le démarrage incroyable du pèlerinage de Conques et de l'abbaye de Conques, 868. Sainte-Fauste. Alors, Sainte-Fauste est plus curieuse. Sainte-Fauste, nous la verrons d'ailleurs tout à l'heure, c'est plus intéressant, parce que sa vie à elle est l'histoire du vol de ses reliques, ou de la récupération de ses reliques, est plus ancienne. Au lieu d'avoir été écrit par des moines du 11e ou 12e, il semble que c'était écrit, la vie de Sainte-Fauste, seulement une cinquantaine d'années, ou une soixantaine d'années après la mort, après la translation de Sainte-Fauste. Ensuite, vous avez Sainte Fortunade. Elle aussi, Sainte Fortunade, c'est une jeune vierge. Elle aussi martyrisée à Agen, mais en principe originaire de Bourgogne. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi elle est allée de Bourgogne à Agen, mais ses parents, qui étaient des Bourguignons, sont venus la chercher. Ils ont été assez fatigués parce qu'en cours de route, ils se sont arrêtés près de Tulle, dans un endroit qui s'appelle Saint-Martial-le-Noir, et qui va devenir Sainte-Fortunate. Et là, la sainte, elle a dit qu'elle ne voulait plus continuer. C'est-à-dire que le corps s'est complètement mis sur place. Probablement que c'était dans un chariot. Les bœufs ont refusé d'avancer. Bref, elle s'est arrêtée là. Et elle va être enterrée, donc, à Saint-Martial-le-Noir, qui va devenir Saint-Fortunate. Vous voyez, ce sont des histoires un petit peu semblables. Oui. Voilà Sainte Fauste. Sainte Fauste, elle est dans l'église de Brivezac. Parce que Sainte Fauste, il lui est arrivé à peu près la même histoire que celle de Sainte Fortunate. C'est-à-dire qu'on l'a un petit peu changé d'endroit. Oui. Voilà. Alors, il faut repartir de Solignac. Solignac, c'est une abbaye qui a été fondée donc en 632 par Saint-Éloi, personnage fort célèbre, abbaye fort célèbre, et qui possède des biens extraordinaires en Limousin. Ça va de l'Arche, le rocher de l'Arche, qui appartenait à Solignac, jusque, semble-t-il, à Brivezac, qui est donc à l'autre extrémité du Val Limousin, à Brivezac et probablement au château de Puy-l'Armac. L'abbaye de Solignac possède une partie de Curmonte, qui deviendra une des grandes châtellenies de la vicomté de Turenne. Ça veut dire que c'est une abbaye fort riche et dont les biens sont fort étendus. Il se trouve, malheureusement pour elle, qu'en 860, nous sommes à l'époque des invasions normandes, l'abbaye de Solignac, qui se trouve près de Limoges, est pillée par les Normands. C'est très probable, c'est très possible, parce qu'effectivement, les Normands ont réussi à aller jusqu'à Limoges, mais n'ont pas dépassé pratiquement Limoges. Il faut savoir que ces Normands, vous les imaginez sur des dracars, ils ne sont pas sur des dracars. Ils viennent soit de la Loire, soit de la Garonne, et de Dordogne à la rigueur, mais ils ont en général raflé des chevaux et ils arrivent à cheval en équipe d'à peu près une centaine de vikings, de pillards, vous voyez, et ils font des ravages le plus rapidement possible. Ils passent, quoi. Ils font un raid. C'est pas du tout des gens en train de ramer, de poser le bateau et d'aller se balader à pied dans les environs. Vous pensez bien que s'ils avaient fait ça, ils auraient été très rapidement liquidés. D'abord parce qu'ils auraient été à pied, ensuite parce que c'est très facile de brûler un bateau, voyez, et qu'il n'est pas question de laisser son bateau et d'aller se promener quand on est un marin. C'est pas le genre. Donc ils volaient des chevaux, et ensuite ils faisaient des raids très rapides. Donc c'est ce qu'ils ont dû faire quand ils sont allés piller l'abbaye de Solignac. Alors les moines de Solignac sont allés se réfugier dans leur prieuré de Brivezac, qui était sur la Dordogne, et qui était lui parfaitement tranquille. D'autant qu'il était juste à côté de Puy-l'Armac, qui devait être déjà une sorte de camp fortifié, vous voyez. Et là, ils ont commencé à se dire qu'est-ce qu'on va faire pour rétablir notre prestige. Alors le duc de Gascogne, ça se passe 4 ans après, en 864, le duc de Gascogne, qui s'appelle Arnaud, leur dit, dans mon pays, la Gascogne, qui est en ce moment pillée par les Normands, elle aussi, il y a une église, il y a des églises qui sont en ruine et dans lesquelles il y a des corps de martyrs. Vous devriez venir chercher ces corps parce que ça donnerait à votre abbaye beaucoup plus, évidemment, de puissance. Les moines de Solignac comprennent fort bien la chose. Et ils vont envoyer leur moine, qui s'appelle Aldarius, accompagné par Gotafred, qui est le neveu de l'archevêque de Bourges, et qui est le fils du comte de Quercy numéro 2, si on peut dire, c'est-à-dire le frère de l'archevêque. Ces deux personnages donc s'en vont dans la région de Vic-Fezazac, donc en pleine région de Gascogne. Ils nous trouvent dans l'église de Vic-Fezazac, donc, le corps de Sainte Fauste, signalé par un merveilleux parfum, parce que ça, c'est le système, enfin, c'est la raison classique qui fait qu'on dit qu'un corps est un corps de saint, c'est qu'il exhale des parfums bien meilleurs que le corps habituel, vous voyez. Et donc, ils vont le ramener. En cours de route, il s'arrête à Nonard. Nonard, c'est pas très loin de Brise, vous voyez, quelques kilomètres. Parce qu'ils sont fatigués. Mais aussi, probablement, parce que Sainte Faust en a assez. Elle trouve que le trajet a déjà beaucoup duré. Et elle voudrait bien qu'on s'arrête. Alors, les moines qui se trouvaient à Brézac, et en particulier ceux qui étaient toujours à Brézac, qui restaient dans le prieuré, viennent en procession à Nonard, ramènent le corps à Brézac. Et à partir de ce jour-là, donc, le corps de Sainte-Foy se trouve à Brézac et va produire des miracles. On va aussi appeler la fontaine de Brézac la fontaine Sainte-Faust. Autrement dit, elle va changer de nom. Elle avait probablement un nom païen, et on va lui donner le nom de Sainte-Faust. Quant à ses reliques, elles vont être ensuite transférées quand même à Solignac. Il est évident que les moines de Solignac, quand l'abbaye s'est reconstituée, ont récupéré probablement une grande partie du corps de Sainte-Faust. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, en 1247, ils les ont donnés à une abbaye qui se trouve près de Bourges, mais qui est une abbaye cistercienne, c'est-à-dire une abbaye, en principe, pas hostile, mais enfin, très différente des abbayes bénédictines, comme l'abbaye de Solignac. Cette abbaye cistercienne va, pendant la Révolution, évidemment, perdre le corps de Sainte-Faust, mais en revanche, les deux châsses qui contenaient les os donc, de Sainte-Faust, et qui sont des châsses du XIIIe siècle, c'est-à-dire probablement de cette période de 1247 ou un peu avant, se trouvent actuellement au musée de Cluny. Ce sont, on peut dire, les rares châsses du Limousin qui ont quitté le Limousin, qui se retrouvent donc à Cluny. Oui ? Ça, c'est, vous voyez, c'est la tête de Sainte Fortunade. Sainte Fortunade, elle a un nom, vous voyez, Fortuné, Foi, à s'insérer, c'est Sainte-Spéry, c'est-à-dire l'espérance. Ce sont des noms qui sont un petit peu abstraits. C'est des noms qui donnent l'impression que, ne sachant pas le vrai nom des personnages, on leur donne comme ça un nom un petit peu... à la foi, l'espérance, la charité, voyez, et ainsi de suite. Fortuné, fortuna, ça veut dire le bonheur, la fortune. Alors, ici, et ça va peut-être intéresser les gens d'Albignac, s'il y en a, c'est une étude qui a été faite par Madame Proust à propos des chapiteaux qui se trouvent à Albignac et qui se trouvent à Saint-Martial de Mort, c'est-à-dire à Saint-Fortunat. Ce sont des chapiteaux qui ont été faits par les mêmes sculpteurs, que ce soit à Albignac ou que ce soit à Saint-Fortunat. Et elle se demande si ce n'est pas un sculpteur qui serait venu d'Agen, où précisément il avait refait des chapiteaux qui se trouvent dans l'église d'Agen. Ça, c'était son idée. Ce qu'elle sait aussi, c'est qu'Albignac appartient à un prieuré italien, qui s'appelle le prieuré de Cluse. Et elle sait aussi que le prieuré de Sainte-Fortunade appartient à l'abbaye de Tulle. Autrement dit, les commanditaires, ce n'est pas les mêmes. Celui qui a commandé les chapiteaux d'Albignac, c'est forcément l'abbé de Cluse, ou un des prieurs. Et il se trouve qu'il a fait faire aussi à Catus, qui se trouve en Quercy, des chapiteaux dans ce prieuré de Catus qui lui appartient. Donc ce que pense Madame Proust, c'est que ce sculpteur est venu d'Agen. D'Agen, il est allé en Quercy à Catus. De Catus, il est monté à Albignac, où il a fait les chapiteaux, ce qui est normal, toujours pour le compte de l'abbé de Cluse. Et puis, les abbés de Tulle ont dû venir le trouver et lui dire « Nous avons des chapiteaux à mettre dans notre église de Sainte-Fortunade, est-ce que vous ne pourriez pas venir les mettre ?» Et donc, il serait monté d'Albignac à Saint-Martial-de-Noir, ou si vous préférez, Sainte-Fortunade, pour faire ses sculptures. Il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de prendre une route qui est bien connue et qui est la route qui va de Beaulieu à Tulle. Ça, c'est une route très ancienne bien plus ancienne que l'abbaye de Beaulieu, puisqu'elle date que du sang et du poussière, bien plus ancienne et qui passe pas très loin de Brébezac. Alors, il ne faut pas oublier qu'à Beaulieu, donc, il y a des reliques qui viennent de Rome, mais en même temps, les gens d'Agen prétendent que Saint Prime et Saint Félicien sont d'abord passés par Agen. C'est-à-dire que Raoul ne serait pas venu les chercher à Rome, mais serait venu les chercher à Agen. Moi, c'est ce que prétendent les gens d'Agen. C'est la route qui vient d'Agen. Donc, il y aurait une autre possibilité plus simple. Le sculpteur serait venu d'Agen, il serait allé à Sainte-Fortunade, et Sainte-Fortunade serait, puisqu'elle était martyr d'Agen, serait donc elle venue d'Agen. De là, il serait ensuite allé à Lumière, puis il serait descendu à Cactus. Ça, c'est pour vous expliquer l'intérêt qu'il y a à suivre le voyage des reliques, et aussi, bien sûr, le voyage des sculpteurs qui décorent les églises, pour essayer d'imaginer donc des routes du Moyen-Âge, pour essayer d'imaginer ces routes. Il faut donc s'imaginer quand même qu'il y a une route, Agen, Conques, Brébezac ou Beaulieu, tout ce coin-là, et ensuite, Sainte-Fortunade. Oui. Alors, ce voyage de reliques, ça c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir vraiment. Disons seulement que ces voyages de reliques supposent soit un achat, c'est-à-dire qu'on achète une relique pour la porter ailleurs, soit un vol, et les vols au Moyen-Âge étaient bien considérés. Les moines décrivent des vols qu'ils font, voilà, des véritables vols de reliques, à peu près sans scrupule, tout simplement parce qu'ils disent que le saint en question a été ignoré chez eux, on l'avait oublié, et donc qu'eux, ils le ramènent à la vie. Ils le ramènent, si vous voulez, à la situation de faire des miracles. Voilà, donc ça, je voulais un petit peu expliquer déjà. Alors ça, c'est Saint Cessateur qui est évêque de Limoges. Alors c'est l'exemple là d'un saint, qui est simplement un évêque, sur la vie duquel on a assez peu de renseignements, sinon que théoriquement, il a combattu les Vandales. Alors les Vandales, ça serait, vous voyez, au 3e, 4e siècle, quelque chose comme ça, et qu'il les a évité à Limoges d'être détruite par les Vandales. C'est ce que vous voyez là, mais évidemment ça c'est un vitrail qui est à Limoges, qui a été fait au 19e siècle, et qui évidemment sur le plan des costumes et de l'iconographie n'a rien à voir avec l'époque de Saint Cessateur. C'est un habit qui date de la fin du Moyen-Âge. Alors voici ce qu'on peut appeler les voyages des saints, des reliques, à l'époque donc des Normands. C'est ce qu'on peut appeler le Balibousin terre d'accueil. Léon et Corona, ce sont des saints qui viennent de Normandie et qui seront abrités à l'abbaye d'Uzèche, pratiquement dans ces années 800-860 et jusqu'en 900. Ensuite, vous avez à l'abbaye de Vigeois, très proche d'Uzèche, une sainte venue d'Angleterre, parce que les Anglais aussi étaient en proie aux attaques des Normands. Et c'est une sainte qui s'appelle Madagol. Elle est tellement peu connue que les moines de Vigeois, n'ont pas essayé de savoir quelle était sa vie. Alors ensuite, il y a ceux qui viennent de Limoges. Alors, Saint Cessateur est translaté de Limoges, où on craignait que les Normands donc pillent ses reliques. Il est translaté à l'église de Malemort. L'église de Malemort. Il ne va pas devenir le patron de Malemort. Nous verrons tout à l'heure que le patron de Malemort, c'est Saint Santin. Mais disons qu'il se réfugie à l'église de Malemort. Ensuite, il y a Ulfard et Beaumard, qui sont des saints assez inconnus, évidemment, en Limousin, mais qui viennent se réfugier à l'abbaye de Tulle, et qui sont donc tous les trois venus de Bretagne, sud-ouest, Anjou, etc. Et puis, il y a aussi un saint clair, qui est très célèbre à Tulle, puisque c'est lui qui est le patron de la grande foire de Tulle, Saint-Clair. Saint-Clair qui viendrait théoriquement de Lectoure. Mais enfin, à Lectoure, on dit qu'on a le corps de Saint-Clair. Hein. Alors, est-ce qu'il a été ramené? On ne sait pas. Ensuite, il y a Turenne. À Turenne, l'abbaye de Saint-Martial va, pendant plusieurs années, confier le corps au château de Turenne, autrement dit, le mettre à l'abri, lui aussi, des ravages des Normands. Et puis, il y a ce que je viens de vous dire, Sainte Fauste à Brunsac, et puis à Dieu, mais sans rapport, alors cette fois-ci avec les Normands, Saint Prime, Félicien, et Sainte Fortuna. Vous voyez que dans tous les cas, on se trouve dans la zone ouest du Val Limousin. Et ça correspond pratiquement à la route qui va de Limoges à Rue. Alors pourquoi il y en a moins de l'autre côté? Alors nous allons voir qu'il y en a quand même. Mais c'est plutôt des ermites. Vous voyez, les saints de la partie enfin des collines du Limousin et de la partie granitique. Ici, vous voyez, c'est cette espèce de d'anneau qui tourne autour de Brive, pratiquement. Alors ici, des voyages, vous voyez, beaucoup plus variés. Alors je vous ai donné tout à l'heure le voyage de Sainte-Fauste. Voilà Vic-Vénazac, et donc voilà le trajet qu'elle parcourt jusqu'à Brivesac. Bon, alors, voilà. Voilà maintenant le voyage d'Agen. Le voyage d'Agen, donc, on part d'Agen. Et on se retrouve à Conques. Vous voyez que c'est deux voyages un petit peu semblables. Je vois d'où vous parlez. Alors maintenant, on va voir deux voyages, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que là, vous devez commencer à en avoir un peu. Voilà deux voyages beaucoup plus compliqués, de deux saints, qui sont des saints historiques, qui sont connus dans les annales et dans les anciennes chroniques. Saint Léger et Saint-Bardou. Alors, Saint-Léger, d'abord. Saint-Léger, c'est un saint du temps des Mérovingiens. Il a combattu politiquement parce qu'il était évêque d'Autun et qu'il défendait la région d'Autun contre les seigneurs qui se trouvaient plutôt du côté de la Neustrie, c'est-à-dire de Normandie, si vous voulez. Et c'est un saint qui s'est fait tuer pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il était l'évêque. Il n'a pas réussi à défendre la ville qui a été prise. Il a été martyrisé. Mais c'est un martyr, c'est pas parce qu'il est chrétien. C'est parce qu'il soutient un parti politique. Alors, il se trouvait qu'il avait été abbé de Saint-Mexon, avant d'être évêque d'Autun. Donc, lorsqu'il meurt, les gens de Saint-Mexon vont réclamer son corps. Il avait été tué du côté de la Somme, en Picardie, je crois. Et donc, on ramène son corps à Saint-Mexon. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et on l'enterre à Saint-Mexon, il y est installé. Ensuite, alors, arrivent les Normands. Et il faut donc transplanter son corps. On va le ramener jusqu'à Ébreuil, là-bas, voilà, Ébreuil, qui se trouve dans l'Auvergne. Et parce qu'on est sûr que là, il ne pourra pas être atteint. Et on lui laisse le temps, donc, que ces invasions normandes cessent. Ensuite, les gens de Saint-Mexon, qui ont de la suite dans les idées, réclament son corps, et les moines vont se diviser en deux groupes. Alors, une partie des moines prend le chemin direct et revient à Saint-Mexon. Vous voyez que le chemin direct des Breuils à Saint-Mexon, ça passe par Guéret, à peu près. Donc, les voilà qui partent pour Saint-Mexon. Et puis l'autre moitié, qui portait la tête et qui portait aussi deux bras, s'égare. Alors on nous explique qu'ils se sont beaucoup égarés, parce qu'ils se retrouvent quand même du côté de Mémac. Vous voyez que là, ils n'avaient pas de boussole, il y avait quand même un assez gros problème. Et il y a un deuxième problème, dans la forêt de Ventadour, ils rencontrent des voleurs, et ils sont tués par les voleurs. Mais les voleurs emportent les reliques. Mal leur en prend. Ils s'installent dans un château voisin qui s'appelle le château du Lieuteret. Et là, au château du Lieuteret, il se trouve que tous les voleurs meurent. Il y a le saint qui commence à se manger. Donc le voleur meurt. Alors on met les reliques dans l'écurie. les chevaux meurent. Alors le seigneur du Leuteret commence à en avoir assez et il demande qu'on mette ses reliques ailleurs. Et effectivement, les reliques repartent donc et elles s'arrêtent à Meymac, qui est à quelques kilomètres du Leuteret, qui n'est pas très loin. Et donc on va fonder l'abbaye de Meymac et cette abbaye de Meymac va donc récupérer la tête et deux bras de Saint-Léger. Pendant ce temps-là, à Saint-Mexant, les gens ne sont pas contents. Mais ils disent en même temps que ce n'est pas vrai. Et qu'eux, ils ont le corps entier. Ils n'ont pas de problème. Que les gens de Meymac racontent des histoires. Ça restera longtemps, évidemment, une véritable énigme. Mais vous avez ici des chemins, vous voyez. Des chemins qui sont dans le sens est-ouest. Et pas, comme d'habitude, dans le sens nord-sud. Mais aussi, il y a le fait que lorsqu'on vit à Ébreuil et qu'on veut aller à Saint-Mexant, eh ben on peut se perdre du côté de Meymac. Vous voyez, les chemins n'étaient pas balisés. Il n'y avait pas de poteau indicateur pour vous dire « vous êtes en train de vous tromper de chemin ». Et la deuxième promenade également très curieuse, c'est celle de Saint-Pardoux. Alors Saint-Pardoux, c'est le fondateur de l'abbaye de Guéret, et du même coup, en même temps, on peut dire le fondateur de la ville, parce que cette ville de Guéret n'existait pas avant lui. Alors il a eu une vie parfaitement normale en tant qu'abbé. Il n'est pas mort martyrisé, il n'a pas eu d'ennui, mais il est extrêmement vénéré à Guéret, bien sûr. Et naturellement aussi, les gens de Guéret déclarent qu'ils ont son corps entier, ce qui est logique, puisqu'il était abbé et qu'il ne s'est pas tellement promené. Mais voilà que vers l'an 1000, ce corps de Saint-Pardoux est transporté, on ne sait pas par qui et on ne sait pas comment, à l'abbaye de Sarlat. Sarlat qui se trouve carrément en Périgord. On a donc fait là un long trajet et on ne sait pas qui a fait ce trajet. Alors ça peut être évidemment l'abbé de Sarlat. L'abbé de Sarlat, une abbaye qui est probablement encore assez jeune, a besoin d'avoir des saints. Elle possède déjà le corps de Saint Sacerdos, qui est un ancien évêque de Limoges, mais qui était d'origine du coin. Il était exactement du Quercy, mais c'est pas loin. Et probablement qu'il trouvait que Saint Sacerdos ne faisait pas assez de miracles. Et donc, on récupère le Saint-Pardoux. On le met dans la même église que Saint Sacerdos. Et alors là, c'est le clash. Il n'y a plus de miracle du tout. Parce qu'évidemment, Saint Sacerdos est le miracle. Mais Saint Pardoux, lui, se dit non, je ne suis pas le miracle ici. Alors on le transfère dans une autre église de Sarlat, qui est l'église Saint-Jean. Mais alors, c'est une certaine humiliation. Et un troisième personnage va intervenir. Ce personnage, c'est un seigneur de Lastour. Alors, est-ce qu'il s'appelle Olivier ou est-ce qu'il s'appelle Golfier, je ne me rappelle plus. Bref, c'est un seigneur de Lastour, et le seigneur de Lastour est persuadé qu'il est le descendant de l'ancien seigneur de Guéret. Et il se dit, c'est moi qui dois avoir le corps de Saint-Pardoux, puisque je suis le descendant du seigneur de Guéret, là où était l'abbaye de Saint-Pardoux. Il va donc demander à un moine de Sarlat d'effectuer un vol à son usage, pour ramener le corps en Limousin. Alors, le moine de Sarlat va prendre un âne, il met deux besaces de part et d'autre de l'âne, enfin, c'était des bastes, des benastes, comme on disait, hein, des grosses bastes. D'un côté, il met son puer, c'est-à-dire son serviteur, et dans l'autre, il met le corps de Saint-Pardoux. Et il part donc à travers la région Sarlat. Au passage, on lui demande ce qu'il fait. Mais chaque fois, il explique, je vais à la foire de Savignac, je vais à la foire de Nadaillac, bref, je suis en train de transporter des légumes pour la foire. Et il arrive à la Bézère. La Bézère, ça se traverse du côté de Terrasson. Il va donc attendre sur les bords de la Bézère, et le seigneur de Lastour arrive de l'autre côté, en Limousin, de Mansac, de Cublac et des endroits comme ça, avec toute une équipe de chevaliers avec lui. Et donc, il récupère le corps et il l'emmène. et il s'arrête à arnaque, c'est-à-dire à ce qu'on appelle, oui, arnaque, le puits d'arnaque. Pas un snack, enfin le puits d'arnaque de Beaulieu. Arnaque. Arnaque du côté d'Agnac. Du côté d'Agnac. Et là, il construit donc une église en l'honneur de Saint Pardi. Et il y met le corps présumé de Saint Pardi. Alors, il y a quelqu'un qui est très embêté, c'est l'évêque de Limoges. Parce que les gens de Guéret persistent à dire qu'on ne leur a pas pris le corps de Saint Pardou, qu'ils l'ont toujours, et la preuve, c'est qu'ils peuvent l'emmener en procession jusqu'à Limoges, s'ils le font. De leur côté, les gens du Lac-Marc disent « Nous, c'est pareil, on peut parfaitement emmener le corps de Saint Pardou et l'amener jusqu'à Limoges. » C'est ce qui va se passer au moment des ostensions, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on sortait toutes les reliques de Limoges, et naturellement, s'il y avait des reliques aux alentours, on les amenait aussi. Donc il les amène, mais l'évêque, extrêmement prudent, oblige les porteurs des chasses d'Arnac et de Guéret à s'arrêter dans la banlieue et à ne pas entrer dans la ville. Il est évident que lui, il se trouvait vraiment très gêné, parce qu'il ne savait pas qui était vraiment le possesseur de ces reliques de Saint-Pardou. Vous voyez que là, on a affaire à des abbayes qui ont une certaine concurrence et qui ont le même type de réclamation à faire. Bien. Oui. Alors, voici le reliquaire de Saint-Léger, à Mémac. À Mémac, on persiste à considérer que le corps de Saint-Léger se trouve chez eux. Au moment du XVIIIe siècle, on leur avait demandé quand même, puisque Saint-Alexandre disait qu'ils l'avaient aussi, si vraiment ils étaient sûrs d'avoir le corps, l'intendant écrit au ministre à Paris, il n'est pas question de discuter sur l'authenticité du corps de Saint-Léger, ça serait une affaire à avoir une véritable révolution dans les Mémac. Bon, alors, on s'en tient là. Et effectivement, à Mémac, Saint Léger fait des miracles extraordinaires. Lui aussi, comme on le dit de Saint Prime et Félicien, il guérit les fous, enfin les possédés, les gens qu'on appelait à l'époque des possédés, parce qu'on était persuadé que la folie était un signe du démon, que c'était le démon qui s'était emparé de vous. Donc Saint Léger guérit les fous. Peut-être que c'est son côté léger, vous voyez. En tout cas, pour Saint-Prime et Félicien, c'est net. Là aussi, alors à Saint-Prime et Félicien, à Beaulieu, ils avaient une technique assez dure pour les posséder. Lorsqu'on les leur amenait, on les amenait à l'abbaye, ils les enfermaient dans la tour du clocher pendant 9 jours. Alors je ne sais pas si c'était sans manger. Enfin, ils les mettaient là pendant 9 jours et on disait des neuvaines pour eux. Et puis au bout des 9 jours, je pense que, bon, on les relâchait, mais je ne sais pas dans quel état, là, c'est pas très bien. Voilà donc pour la version Mémac. Ça, c'est le brin reliquaire de Saint-Pardou qui se trouve au musée de Guéret. Ça, c'est bien pour dire que les gens de Guéret considèrent qu'ils ont toujours au moins le brin de Saint-Pardou, puisqu'il est là. Mais alors là, je vous l'ai un petit peu déjà raconté. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est donc l'histoire de Saint-Pardou. Et nous arrivons à Saint-Vendon. Alors je reviens à Brive. Alors ça, c'est un saint totalement ignoré. Saint-Vendon. Alors Saint-Vendon, ça se trouve du côté de Champs, ou si vous préférez, de Marcillac. C'est-à-dire pas très loin de la frontière avec Noailles. Mais c'est sur la commune de Brive. Et c'est ces fameuses grottes, qui sont d'ailleurs aussi des grottes préhistoriques, et qui se trouvent dans la vallée de Planche-Porte, etc. Ces petites grottes qui sont là derrière. Alors, Gondon ou Gondulf, donc, serait un ermite qui aurait vécu dans ces grottes, donc, à une époque assez inconnue, et qui aurait donc créé une sorte de fontaine miraculeuse, mais en même temps intermittente, parce qu'elle coule qu'en hiver, cette fontaine miraculeuse, et qui guérissait les maux Dieu. Alors, là, du coup, il n'y a pas de calembour avec Saint-Gondon. Je ne sais pas pourquoi il guérit les maux Dieu, mais c'est le cas. Et un pèlerinage, d'après les traditions de Brive, aurait lieu donc tous les 15 mai. Voilà pour Saint-Gondon à Brive. Maintenant, il y a l'autre Saint-Gondon, ou le même Saint-Gondon, on ne sait pas. Alors, c'est la tradition d'un village qui se trouve donc dans le Loiret, assez près de la Loire d'ailleurs, à un endroit qui s'appelle précisément Saint-Gondon. Alors, pour eux, c'est un ermite. Cet ermite aurait vécu au VIe siècle. Il aurait été d'abord évêque, semble-t-il, et puis il serait devenu ermite, et il se serait installé dans la forêt, pas très loin de ce Saint-Gondon, à un endroit que les Gaulois vénéraient, parce que c'était un endroit qui était à la limite de plusieurs tribus gauloises, de plusieurs peuples gaulois. Voilà pour Saint-Gondon. Ensuite, eh bien, son corps, il serait mort donc dans cette forêt, son corps aurait été retrouvé, comme le schéma classique, et il aurait été porté dans ce lieu qui s'appelait alors Nobiliac et qui s'est appelé ensuite Saint-Gondon. Alors, pour l'instant, on a l'impression qu'il s'agit de deux saints totalement différents. C'est peut-être deux ermites, mais il y en a un à Brive, il y en a un autre qui est dans le Loiret. Pas du tout. En 1570, c'est-à-dire en pleine guerre de religion, l'église de Saint-Gondon est brûlée et les reliques du saint sont transportées, disent les traditions de là-haut, jusqu'à une grotte dans les environs de Brive. Et on les installe donc, en pleine guerre de religion, dans cette grotte près de Brive. Comme les gens de Saint-Gondon avaient de la mémoire, ils se rappellent donc qu'ils les ont laissés là. Et à peu près un siècle plus tard, vers 1641, à une époque où évidemment il n'y a plus de guerre de religion, ils vont les ramener en procession à Saint-Gondon chez eux, là-haut, et en principe, donc, il ne devrait plus y avoir de vénération sur place à Brive, puisqu'on a enlevé le corps. Pas du tout. En 1675, Pierre de Fieux, qui est originaire de Turenne, et qui est seigneur de Lignoire à Turenne, mais qui est en même temps un officier de justice de Brive, décide de fonder une vicairie, c'est-à-dire un honoraire de messe, une série de 20 messes par an, qui seront célébrées dans la chapelle de Saint-Gondon, c'est-à-dire là, à Marcillac, enfin près de Marcillac. Et pour ça, il va donner une terre considérable, 15 céterés, c'est énorme, de terre, de bois et de vignes pour qu'on célèbre cette vicairie. Et il donne tout ça au curé de Saint-Martin-de-Brive. Et le curé de Saint-Martin-de-Brive devra donc restaurer la chapelle et faire dire les messes. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que ce monsieur de Fieux, ayant vu qu'on trimballait des reliques et qu'on les ramenait du côté du Loiret, s'est dit, il faut quand même que je fasse un effort pour qu'il y ait quand même il y a quelque chose qui se passe quand même ici. Est-ce que ça a été fait? C'est pas sûr du tout, parce que maintenant, cette chapelle de Saint-Gondon, elle a complètement disparu, et donc on ne sait pratiquement même plus l'endroit où elle se trouve. Mais vous voyez, vous avez là un ermite qui jouit, si vous voulez, du privilège de bilocation, c'est-à-dire qu'il peut se trouver à un endroit et à un autre. En même temps, mais c'est quand même assez rare. Et pourquoi s'appelle-t-il Saint-Gondon aussi? Alors, pour beaucoup de gens, en réalité, c'est une déformation de Saint-Aurat de Vaulne. Et les Saint-Aurat de Vaulne, elles sont à des frontières, à des limites. Ce qui expliquerait donc qu'ils soient dans la forêt à une limite de plusieurs peuples gaulois. Et ça expliquerait aussi qu'ils soient du côté de Noailles, parce qu'on est vraiment très près, là, du Quercy et du Périgord. On n'est pas très loin des limites du Quercy et du Périgord. Ça c'est encore une... Ça, c'est Saint-Santin. Je termine par là, parce que j'ai commencé quand même à être fatigué. Saint-Santin m'a posé un problème, mais il est tellement important, ce problème, que j'expliquerai ça aux gens de Malmort dans quelques temps. Je leur ferai une conférence sur Saint-Santin. Alors, Saint-Santin, c'est... Alors là, c'est une statue qui se trouve dans l'église de Malmort, et qui a été faite récemment, parce que le dernier chef de Saint-Gondon, c'est-à-dire de Saint-Santin, c'est-à-dire ce buste, a été volé. Voilà. Mais bon, manque de chance, il a été volé et ils ont été obligés de faire faire une réplique. Je suppose que la réplique ressemble à l'ancienne statue, tout simplement parce qu'elle a dû avoir des photos quand même. Ce n'est pas un vol ancien. Alors, Saint-Santin, il est évêque de Verdun. Vous voyez que ce n'est pas tout près. Aucune église en France, pratiquement, ne s'appelle Saint-Santin, sauf une qui est en Auvergne. Il y en a deux en Auvergne, Saint-Santin-Cantalès. Il y a un autre Saint-Santin, plus petit, Saint-Santin de Mort, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, Malmort. Alors, pourquoi? Pourquoi cet évêque de Verdun, qui est très vénéré à Verdun, puisque c'est le premier évêque de Verdun, qu'est-ce qu'il est venu faire à Malmort? Alors, j'ai essayé de retrouver sa route. La route, elle est la suivante. Il a été non seulement évêque de Verdun, mais il a été évêque de Meaux. Et il est mort à Meaux. M-E-A-U-X, vous voyez. On n'est pas très loin. Les marchands de Verdun, ce sont des marchands d'esclaves. Et ils récupèrent les esclaves qui se trouvent en Germanie ou chez les Slaves, vous voyez, en Pologne, etc., qui sont des païens, et ils les vendent à Verdun. Les chrétiens ont le droit d'acheter des esclaves païens. Hein. Ils n'ont pas le droit d'acheter des esclaves chrétiens, mais ils ne peuvent pas acheter des esclaves chrétiens. Donc c'est un grand marché d'esclaves. Et d'autre part, ces marchands de Verdun traversent la France en direction de l'Espagne et ils vendent des esclaves aux musulmans, qui en achètent beaucoup. Ils récupèrent énormément d'enfants, de femmes et de jeunes esclaves. Il se trouve qu'une des routes qui traverse depuis Verdun jusqu'à l'Espagne, en particulier par Toulouse, passe à l'époque par Malmort. Brive est encore une ville sans importance. C'est Malmort qui est le véritable centre. Donc ces marchands, vous voyez, de Verdun, ont dû faire un arrêt sur Malmort. Ils ont peut-être laissé des gens, parce qu'en 1200, il y avait encore à Malmort plusieurs familles qui s'appelaient les familles de Verdun. Il y avait en particulier un Élie de Verdun, qui était très probablement juif, parce que Élie, c'est quand même un prénom assez ancien testament, et qui faisait lui-même, qui avait lui-même beaucoup de terres autour de Malmort. Donc il est très possible que ces marchands aient propagé le culte de Saint-Santin à Malmort. Alors l'autre route, c'était évidemment la route de la vallée du Rhône. Mais enfin, la route de la vallée du Rhône, elle n'était pas toujours très sûre. Tandis que notre route à nous, c'est-à-dire la route par Bourges, Limoges, Brive, etc., Toulouse, celle-là, c'était une route beaucoup plus sûre. Il y avait, si vous voulez, moins de danger lorsqu'on était un marchand à s'y propager. Voilà, j'ai terminé sur une route et j'espère que vous me suivrez sur d'autres routes.